Une histoire vraiment troublante dans la presse de ce matin. La police de Terrebonne qui a reçu une vidéo le mois dernier dans laquelle on peut voir un jeune agenouillé qui se fait menacer par un pistolet qui est pointé sur sa tempe. Et tout ça après avoir été frappé. Et cette vidéo-là, ben les policiers de Terrebonne ont aucune idée de son origine. Est-ce que c'est une simulation? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements autour de cette vidéo-là, mais il n'en reste pas moins que ce qui est présenté, c'est troublant. Et ça ramène, bien sûr, à l'avant-plan de l'actualité, le phénomène de la culture des armes et de leur popularité chez les jeunes. Maria Mourani, vous êtes présidente de Mourani Criminologie et criminologue. Bonjour.
Bonjour.
Maria, vous avez vu cette histoire aujourd'hui et c'est ça. Ça rappelle tout le phénomène des armes à feu. On a vu, il y a eu beaucoup d'incidents à Montréal, ailleurs au Québec aussi au cours des dernières semaines. Est-ce que collectivement, il faut vraiment commencer à s'inquiéter sur ce phénomène-là qui gagne en ampleur?
En fait, ce qu'il faut s'inquiéter, c'est qu'on vit dans des sociétés où la violence est banalisée. Que ce soit la violence par arme à feu, que ce soit les violences sexuelles, les jeunes, si vous remarquez par exemple les jeux vidéo auxquels les jeunes ont accès, c'est beaucoup de violence, des armes à feu, on a des missions à accomplir avec des armes automatiques. Donc c'est sûr qu'on vit, il faut pas se le cacher, on vit dans une société où la sexualité, la violence sont très valorisées et parfois même sont carrément mélangées, hein. Puis vous allez voir que ce soit par exemple dans la sous-culture des gangs, là on parle beaucoup des gangs, des fusillades, où la violence est très présente, les armes à feu sont très présentes, la sexualité aussi est très présente, tout ça est un mélange. Mais faut pas oublier que les jeunes en général sont constamment, une bonne partie en tout cas d'entre eux sont constamment plongés dans cette violence-là, que ce soit à travers la musique, les jeux vidéo, les films, sur le web par exemple.
Mais Maria, je vous interromps un moment. Oui. On fait quoi avec ça? On n'interdira pas les jeux vidéo, on changera pas la musique non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de freiner cet essor-là? Et là, tu sais, vous parlez bien sûr là, de la sexualité, vous parlez des armes à feu, mais si on cible sur la question aujourd'hui des armes à feu, on fait quoi?
Ben il faut commencer par l'éducation, hein. Ça commence à la maison. C'est la première graine qu'on plante. Oui, on peut pas, c'est un grand mot. Si on veut changer les choses, on peut. Mais disons qu'on ne peut pas changer les jeux vidéo, la musique. On est en plein dans ce genre de société là. Ben il faut commencer à la maison. Donc il faut apprendre à nos jeunes c'est quoi la violence. Comment gérer la violence, comment ne pas se laisser influencer. Puis il faut pas oublier aussi, hein, des jeunes qui vont entrer dans la violence, c'est des jeunes qui vivent de la violence. Quand on vit de la violence, on vit dans un environnement où on a des familles violentes ou même des amis violents, on apprend que pour agir avec les autres, la violence est un des moyens. Et ça passe à la maison. Maintenant, quand on parle d'armes à feu, je peux vous dire que le travail qu'on a à faire est énorme parce que, veut pas, ça fait des années qu'on fait peu au niveau du trafic d'armes à feu. Bon, maintenant, avec la technologie, les jeunes sont capables de s'acheter des armes en pièces détachées, de les monter eux-mêmes. Ils sont capables d'en fabriquer avec des imprimantes 3D. Là, on parle du web, mais on parle pas du deep et du dark web. La vidéo en question auquel vous avez parlé tout à l'heure, ça c'est une goutte dans un océan. Si vous allez sur le deep web et le dark web, vous avez des vidéos d'une atrocité incroyable où on mélange justement sexualité, et je vous le répète, sexualité, sadisme et violence, ça pullue, hein. Sur le web.
Bon, alors que devraient faire nos gouvernements? T'sais, il y a des gens sans doute qui nous écoutent qui disent il faudrait vraiment serrer la vis. Il faudrait vraiment qu'on ait des législations beaucoup plus sévères. Est-ce que c'est une solution ou non? Ça passe pas par ça.
Ben, je vous dirais, concernant les armes à feu, la première des choses à faire, c'est d'avoir une vision à long terme. malheureusement, ce qu'on voit actuellement à Montréal avec les fusillades, ce n'est pas, disons, un phénomène qui est apparu tout seul. C'est la conséquence de mauvaises décisions qui ont été prises antérieurement. Je vous donne un exemple. En 2010, à Montréal, on avait une escouade qui s'appelait Eclipse et qui s'occupait justement de trouver les gars de gang, d'aller dans les lieux où ils sont, les bars, les restaurants, qui faisaient du renseignement sur les gars de gang et le crime organisé en général. Puis en 2019, ils ont aboli cette escouade-là parce que, comme d'habitude, ils font des escouades quand ça va mal et quand ça va un petit peu mieux, ils pensent que le crime va s'évaporer comme ça dans les airs comme, et ne plus exister. Alors, ils abolissent ces escouades-là, comme ils ont aboli Carcajou, comme ils ont aboli, par exemple, l'escouade masse. Donc, ils font ce genre de choses à courte vue pour des économies de bout de chandelle. Et en plus de ça, on a des escouades qui ont de l'expertise. Ils nous font, ils mettent des millions pour ces escouades-là. Puis après ça, ils les dissout. Donc, ils dissout l'expertise. Et après ça, ils recommencent à mettre... Donc, cette façon de faire-là, là, faut vraiment arrêter. Ça fait des années que ça perdure au Québec. Puis aussi au Canada, c'est tout le temps pareil. C'est des mauvaises décisions qui sont prises. Puis une vision à court terme de la sécurité publique.
Ouais. Donc, pas de continuité non plus, là, si je vous comprends bien, dans les décisions qui sont prises. C'est-à-dire que des fois, on a des beaux flashs, on a des bonnes idées, mais il faudrait continuer dans cette direction-là. Puis là, bon, pour toutes sortes de raisons, on décide d'arrêter, budgétaire ou autre.
Tout à fait. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, ça fait des années que je le répète, si on veut pouvoir un peu fermer le robinet là, qui permet à tous ces groupes-là de recruter des jeunes, qui d'ailleurs, des jeunes qui peuvent commencer à l'âge de 10-11 ans, si on veut arrêter le robinet là de couler, il faut commencer à mettre un grand effort sur la prévention. Parce que les jeunes, là, ils sont pas nés pour entrer dans des gangs ou dans le crime organisé ou même d'avoir des actes de violence ou de s'acheter des armes pour se protéger dans certains quartiers. Ils sont pas nés comme ça. Ils le deviennent. Ils le deviennent pourquoi? Parce qu'ils vont, au fur et à mesure de leur vie, réaliser que la seule façon d'être dans la société et la seule façon pour eux de réussir et de se sentir heureux et de vivre, c'est à travers un groupe criminel. Lorsqu'on en vient à penser comme ça que le groupe criminel, c'est ta famille, c'est qu'à quelque part, la société, la famille aussi, a échoué. Donc, ça passe par la prévention. Ça passe pour l'aide qu'on peut accorder aux jeunes, mais surtout la place qu'on peut leur donner dans la société. Ouais. Un jeune qui est heureux, là, qui est heureux de vivre, qui est heureux dans sa famille, qui est heureux à l'école, il va pas aller dans un gang.
Ben, ça, c'est une excellente observation, effectivement, pleinement d'accord avec la façon dont vous présentez les choses. Trouver le bonheur, c'est toujours un défi, mais il faut trouver le bonheur de la bonne façon. Maria Morani, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Grand plaisir.
À une prochaine. OK, la COVID, hein, le sujet est incontournable. On en parle au retour. Il y a une école à Sherbrooke qui doit fermer ses portes pour deux jours, fermer ses portes hier et aujourd'hui parce qu'il y a une éclosion de COVID. C'est une école primaire.